Chapitre 165. Jane Hawk, garée en face du siège de Far Horizons, avait longuement observé le ballet des employés arrivant à leur travail ce mardi matin-là. Certains d'entre eux pratiquaient le covoiturage, mais elle se concentra sur les numéros d'immatriculation de ceux qui arrivaient seuls à bord de leur véhicule. Elle savait par Randall Larkin que chaque employé disposait d'un box numéroté auquel il accédait grâce à une vignette holographique détectée par un lecteur à l'entrée du parking. Quant aux visiteurs, ils étaient invités à déposer une requête 24 heures à l'avance. Elle s'était ensuite rendue dans une bibliothèque publique où elle avait consulté la banque de données de la police sur un ordinateur en accès libre, ce qui lui avait permis d'obtenir les adresses des employés dont elle avait relevé les plaques d'immatriculation. À midi, elle disposait de deux candidats potentiels. Sarah Laura Schoen vivait dans un duplex à Sausalito et venait travailler chaque matin en empruntant le pont du Golden Gate. Henry Waldlock habitait quant à lui Pacifica, au sud de la ville. À la lecture de leurs pages Facebook respectives, ils semblaient vivre seuls l'un et l'autre. Comme Waldlock avait élu domicile dans une maison individuelle, alors que Schoen vivait en appartement, Jane alla repérer les lieux et constata que l'adresse de sa cible était située tout au bout de sa rue, un emplacement idéal pour ce qu'elle avait en tête. Après s'être restaurée, elle retourna dans le quartier de Waldlock et gara son 4x4 à deux rues de la sienne. Son cabas en bandoulière, elle sonna à la porte de la maison de style espagnol sans que personne ne lui ouvre. Il était 17h15. La pancarte d'une société de surveillance était plantée dans une plate-bande d'impatience rouge à côté de l'entrée. Des voisins à gauche, mais aucun à droite, où une simple barrière fermait les trois passages séparant le garage du mur de la propriété couvert de jasmin. Elle souleva le loquet et remonta l'allée jusqu'à la petite porte du garage, s'assit à même le sol, invisible depuis la rue, et attendit. À 18h11, alors que la nuit finissait de tomber, un ronronnement de moteur troua le silence, accompagné d'un balai de phare. Elle entendit, sans la voir, une voiture se rangeait devant la maison. Le volet roulant du garage se releva, le bip de l'alarme se déclencha, la voiture entra dans le garage et le volet roulant se referma. L'alarme se tut avant même que le conducteur ait coupé le contact, probablement désactivé à l'aide d'un téléphone portable. Jane se releva en voyant des lumières s'allumer à l'intérieur de la maison sur l'injonction du mobile de Henry Waldlock. Un claquement de portière, et Jane l'entendit ouvrir la porte reliant le garage à la maison en sifflotant. Elle écarta silencieusement la petite porte du garage en faisant glisser le pen à l'aide d'une carte de crédit et découvrit dans la pénombre une BMW 740i et une Corvette 1960 rouge vif. Comme la plupart des propriétaires d'alarme, Henry négligeait d'enclencher le système de protection périmétrique lorsqu'il était chez lui. Tant mieux pour Jane. Et tant pis pour lui. Il n'avait pas davantage cru bon de verrouiller la porte donnant dans la maison, et elle se retrouva dans une buanderie qui communiquait avec le hall d'entrée. De la cuisine lui parvinrent des rires artificiels. Il venait d'allumer la télévision. Elle monta à l'étage avec son cabas, se réfugia dans la chambre d'amis la plus éloignée de celle du propriétaire des lieux, et patienta dans le noir. Son dîner avalé, Henry regarda un film en réglant le son à un niveau tel que les cloisons vibraient. Une histoire interminable de robots géants et d'envahisseurs venus de l'espace. Il monta se coucher à 22h, en armant le système de sécurité périmétrique, ainsi que le confirma une voix synthétique. Jane ne voyait pas ce qui aurait pu le pousser à la méfiance en pleine nuit. Mais elle choisit pourtant de bloquer la porte de la chambre avec une chaise et s'allongea sur le lit avant de s'endormir. L'angoisse de l'épreuve qui l'attendait au 7e étage de l'immeuble de DJ Michael la réveilla à plusieurs reprises et elle finit par se lever à 4h05. Elle retira la chaise qui protégeait la porte et se glissa dans le couloir. Un rayon de lune projetait une lueur pâle à travers une fenêtre. Elle s'arrêta devant la porte ouverte de la grande chambre, d'où lui parvenait un léger ronflement. Elle alluma sa lampe de poche et constata qu'il dormait sur le dos. Il s'agita lorsqu'elle vaporisa sur son visage une dose de chloroforme. Il battit des paupières avant de les refermer basculant du sommeil à l'inconscience. Il était en caleçon. À vue de nez, un poids mort de 70 kilos. Elle le tira de son lit en le traînant par les bras. Lorsqu'il reprit connaissance, il était assis sur les toilettes de sa salle de bain, entièrement nu, les poignets attachés à sa cuisse gauche avec du ruban adhésif. Ses chevilles étaient entravées par des liens nylon qui formaient une chaîne tout autour de la base de porcelaine du trône, le tout relié à une attache autobloquante qui lui emprisonnait le cou. Une longueur de ruban adhésif lui bâillonnait la bouche et son caleçon pendait à la poignée de porte, bien en vue. Les effets du chloroforme se dissipèrent très vite lorsqu'il comprit ce qui lui arrivait. Il était sous le choc et un voile de transpiration se posa sur son front et sa lèvre supérieure.
« Vous êtes là ?» lui demanda Jane debout sur le seuil.
Il lui répondit en laissant échapper un borborygme étouffé par le bâillon.
« Je vous laisse quelques minutes pour vous réveiller. Je veux être certaine que vous comprendrez bien ce que j'attends de vous. »
Il ne la quitta pas des yeux tout au long de ce moment de répit.
« Très bien, Henry. Voici de quoi il s'agit. Il est possible que vous soyez un honnête employé de Far Horizons et que vous ignoriez le but véritable des recherches qui y sont effectuées. C'est pour cette raison que je ne vous ai pas tué, compris ?»
Il hocha la tête.
« Parfait. À présent, je vais emprunter votre voiture pour me rendre chez Far Horizons. À mon retour, je vous délivrerai. Si vous ne vous êtes pas tué vous-même en tirant sur vos liens autobloquants, ils sont conçus pour ne jamais pouvoir se desserrer. »
Il acquiesça.
« Je constate que vous apprenez vite, tant mieux. J'ai veillé à laisser l'espace d'un doigt au niveau de l'attache qui vous emprisonne le cou, mais elle est reliée à celle de vos chevilles. Si vous tirez sur vos jambes, vous vous étranglez tout seul. »
Il hocha la tête.
« Parfait. À présent, je vais retirer le ruban adhésif de votre bouche. Si jamais vous criez, je vous le ferai payer très cher, et personne ne vous entendra de toute façon. Vous savez ce que signifie payer très cher ?»
Nouveau hochement de tête.
« C'est bien. Voyons si vous êtes aussi malin que vous prétendez l'être, » dit-elle en le délivrant de son bâillon.
Henry inspira longuement. Puis il libéra l'air de ses poumons et les mots sortirent de sa bouche à un rythme effréné.
« Je travaille pour les services comptables. Je m'occupe des négociations avec les fournisseurs et je ne connais rien au programme de recherche, nom d'un chien. Je n'y connais rien du tout. »
Elle l'observa en silence. « Je ne suis pas là pour savoir ce que vous faites dans cette boîte. C'est bon ? Vous avez terminé de vous justifier ? »
« Je voulais dire... »
Sa gorge se bloqua. Lorsqu'il la vit sortir l'un des Heckler & Koch du double harnais d'épaule dissimulé sous son manteau.
« Répondez-moi sans mentir et vous serez le chouchou de la maîtresse, Henry. Avez-vous une femme de ménage ?»«
Oui. »«
Quel jour vient-elle ?»«
Le mercredi à 9h, aujourd'hui. Votre stratagème ne marchera jamais. Vous avez choisi le mauvais jour. »«
C'est ennuyeux. »
Parce que ça ne correspond pas à ce que vous expliquez sur votre page Facebook. Vous précisez qu'elle vient deux fois par semaine, le lundi et le jeudi. Son planning a changé ?
Il hésita.
Non.
Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?
Mercredi.
Vous m'avez donc menti. Savez-vous ce qui vous arrivera si vous me mentez une seconde fois, Henry ?
Oui, j'imagine.
Et alors ?
Vous me le ferez payer.
Elle attendit la suite.
Très cher.
C'est mieux. Je sais que l'entrée du parking en sous-sol de Far Horizons est équipée d'une cellule qui réagit à la vignette collée sur votre pare-brise. Quel est votre emplacement ?
J'ai la place 23 au premier sous-sol. Le numéro est indiqué sur le mur. Vous tournez à droite après avoir franchi la barrière. C'est tout de suite sur votre gauche.
Vous voyez bien quand vous voulez. J'ai également besoin de savoir s'il y a un employé à l'entrée, quelqu'un qui verra que vous n'êtes pas au volant de votre BM.
Non.
Contrairement aux êtres humains, la technologie est infaillible. Le garage est équipé de caméras, mais uniquement pour visionner les images en cas de besoin. La seule façon de sortir du sous-sol est d'emprunter l'ascenseur, et il réagit au son de la voix.
Un système d'identification vocale.
Oui, doublé d'un système de reconnaissance faciale. Vous allez vous retrouver bloqué dans le garage. Votre mission est vouée à l'échec avant même d'avoir commencé. Vous auriez été mieux inspiré de vous renseigner. Toutes ces conneries ne vous mèneront à rien.
On verra bien, répondit-elle en rengainant son arme avant de coller une longueur de ruban adhésif sur la bouche du prisonnier.
À tout prendre? Je vous préfère quand vous ne parlez pas.